nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire, titrée « L'Antiquité dans tous les sens, ce matin, la vue ». Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, nous vous parlerons de Louis, mercredi du goût, et aujourd'hui donc de la vue. Victor Massé de l'Épinay a visité les salles antiques du Louvre en compagnie de deux conservateurs, Ludovic Laugier et Laurent Aumesser, et d'une conservatrice, Violaine Jamet, qui nous décrivent trois ou quatre œuvres, même grecques et étrusques, liées au thème des concours d'enseignement qui, vous le savez peut-être, s'intitule pour la question d'antique, famille et société dans le monde grec et en Italie du 5e siècle avant au 2e siècle avant Jésus-Christ. Elles seront commentées en studio par Aurélie Damé, qui est donc maître de conférence en histoire grecque à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'UMR Anima et spécialiste de la famille grecque classique, et qui a co-rédigé avec son collègue Philippe Moreau, cher Armand Collin, le livre qui s'intitule « C'est la question de Capès et d'Agrec, famille et société dans le monde grec et en Italie ». Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour à vous Aurélie Damé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est une belle question que cette nouvelle question au programme du CAPES et de l'agrégation. C'est une question complexe, profondément renouvelée par une vingtaine ou une trentaine d'années d'historiographie depuis donc 20 ou 30 ans. On a changé de regard peut-être sur ces questions de la famille dans ses rapports à la société dans le monde grec et en Italie avant le 2e siècle avant Jésus-Christ.
Alors oui, c'est une très belle question, c'est pas moi qui vais dire bien sûr le contraire, et renouvelée notamment par des études en anthropologie historique depuis plusieurs années, avec, alors c'est vrai la semaine dernière d'ailleurs, la mort de Françoise Héritier, qui pour les gens qui travaillent sur la parenté et la famille, bien sûr, est une perte douloureuse, et donc une anthropologie du corps, par exemple, qui depuis plusieurs années renouvelle l'approche de la parenté. C'est un exemple, par exemple, de ces nouvelles approches.
Oui, le corps, le genre également, qui renouvelle considérablement les choses.
Voilà, comment penser le masculin, le féminin, la place des femmes dans cette famille, bien sûr.
Alors, nous allons vous soumettre à un exercice un peu particulier, d'autant que dans votre manuel donc de préparation au concours, cher Armand Collin, avec Philippe Voreau, vous nous avertissez, attention, les représentations iconographiques n'ont parfois pas grand-chose à voir avec la réalité de ce qui se passait. Alors, nous avons pris au pied de la lettre la question, et nous allons pouvoir la commenter avec vous, avec, je l'ai dit tout à l'heure, une visite au Louvre de Victor Massé de l'Épinay, qui va nous présenter quelques œuvres avec des conservateurs et des conservatrices du Louvre. Mais il faut se méfier, c'est ce que vous nous dites.
C'est-à-dire que, par exemple, pour les stèles funéraires, je crois qu'on va en entendre parler, il y a beaucoup de stéréotypes, c'est-à-dire qu'on fige certaines figures de parenté, l'époux, la mère, le nourrisson, la jeune fille, le jeune homme, en fait, dans des stéréotypes iconographiques qui reviennent en série. Voilà. Il y a aussi, par exemple, dans les stèles funéraires, une mise en scène de l'harmonie familiale. L'idée n'est pas de montrer les déchirements, par exemple. Donc ça peut être aussi, là, pour le coup, une dissension entre ce qu'on sait par ailleurs de certaines familles déchirées et de l'harmonie en revanche qu'on affiche sur les stèles.
Oui, et donc ça veut dire qu'il faut prendre avec un peu de distance ces représentations iconographiques qui disent
modèles,
quand même quelque chose d'un modèle de famille rêvée, par exemple.
Exactement, d'un modèle harmonieux. Voilà, et de la place de chacun aussi dans la famille.
Alors, on va écouter tout de suite le premier extrait de cette balade au Louvre que vous avez réalisé, Victor Massé de l'Épinay.
C'est avec Ludovic Laugier, qui est donc conservateur des statues grecques au Louvre, et qui avait choisi plusieurs objets. On a gardé la stèle funéraire dite de Baco, et Ludovic Laugier utilise beaucoup de conditionnels. Il explique pourquoi, justement, à propos de ce qu'a dit Aurélie Damé à l'instant.
Oui, parce qu'il s'agit d'une statue grecque dont est spécialiste aussi la période de la Grèce antique, Aurélie Damé, qui commentera ensuite.
Ludovic Laugier, dans ce département, vous êtes responsable de la sculpture grecque. Et nous sommes ici devant une stèle funéraire, la stèle funéraire de Baco. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire cette stèle funéraire et nous dire ce qu'elle est ?
Bien sûr, c'est une grande stèle funéraire en marbre du Pentélique, un marbre typique de la région d'Athènes. et c'est une production d'Athènes, une cité qui s'est fait forte de réaliser des monuments funéraires significatifs, justement d'un point de vue social et d'un point de vue familial. En l'occurrence, j'ai choisi cette stèle, on aurait pu en choisir bien d'autres, elle n'est pas exceptionnelle, au contraire, elle est archétypale d'un mode de représentation de la famille au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, pour remettre un peu les choses en perspective, les stèles funéraires, on les connaît en Grèce depuis le VIe siècle, mais généralement on n'y voit qu'un personnage, le défunt, très rarement une défunte. À la fin du VIe siècle, très ponctuellement, on voit apparaître des stèles au format plus large, avec des groupes familiaux, mais ces stèles sont ensuite proscrites pour des raisons qui ne sont pas complètement attestées par les documents historiques, mais on suppose que la démocratie clisthénienne proscrit le luxe sur les tombes. Puis ces stèles réapparaissent à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, et cette stèle est justement de cette série entre la fin du 5e siècle et la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle date des années 320 et quelques années plus tard, Démétrios de Phalère, en 317, semble à nouveau prescrire les stèles. Alors, pour la décrire plus directement, on y voit une femme assise, vêtue d'une tunique et d'un manteau, richement coiffée. Elle portait aussi des boucles d'oreilles dont on devine la trace. Et elle serre la main à une autre femme, vêtue de la même manière, elle aussi bijoutée. Donc ces deux femmes sont les maîtresses de maison successives de la famille, qui est la mère, qui est la fille, c'est toujours ambigu. Alors ici, on pourrait formuler des hypothèses, j'y reviendrai. Et autour se trouvent des personnages qui ne se présentent pas exactement de la même manière. Vous voyez des femmes qui portent des tuniques à manches longues, et celle du centre porte aussi un bandeau de cheveux qu'on appelle un sécrifal. C'est une servante. Ça, c'est le vêtement de la servante. Par ailleurs, elle porte un coffret à bijoux. Ce sont les servantes qui portent les objets du gynécée, qui font référence, bien sûr, à la coquetterie, aux soins qu'apportent les membres de la famille à leur toilette. Et ensuite, vous voyez qu'elle porte la main au visage. C'est un signe conventionnel d'affliction. Donc, ça veut dire que les esclaves de la maisonnée, les servantes de la maisonnée, s'affligent pour la mort de la défunte. Et puis de l'autre côté, on voit une autre servante qui porte aussi une tunique à manches longues, pressant contre son sein un nouveau-né. Alors, à partir de ces éléments, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pardon, j'oubliais aussi qu'il y a un petit garçon, là, qui justement se rapproche de la figure féminine debout et qui fait un geste de salut cette fois-ci, la main ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? La poignée de main, c'est une dexiosis. En fait, c'est un geste à la fois de lien et d'adieu qui dit le rapport proche entre ces deux femmes de la famille. On a supposé que la femme debout est celle qui s'en va. C'est peut-être celle qui est morte. Pourquoi pas morte en couche ? Auquel cas, l'enfant serait celui qui a survécu et elle serait morte en couche, laissant derrière elle des servantes affligées, une sœur ou une mère, et un fils déjà plus âgé. Donc c'est une manière de résumer plusieurs points importants dans les familles athéniennes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les femmes sont maîtresses de maison, elles ont des esclaves qui sont autour d'elles, elles sont bien sûr mères de famille, leurs enfants les entourent, et éventuellement soit les saluent, soit sont parfois la cause d'un décès. Donc voilà comment on peut résumer les choses, mais dans d'autres cas, on voit des groupes familiaux mettant en scène le père de famille, l'épouse ou trois générations d'hommes, par exemple. Il peut y avoir différentes comparaisons. J'insiste aussi sur un point, c'est les précautions oratoires que j'ai prises. J'emploie beaucoup de conditionnels et je dis, voilà, on pourrait supposer qu'une telle est la mère, l'autre la fille ou la sœur. En fait, l'inscription donne simplement le nom des personnes, Baco, Aristonike, par exemple, mais pas forcément les liens de famille. Donc ces stèles sont interprétées avec prudence quand il s'agit de dire qui est qui dans le détail.
Dans l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, où est-ce qu'on voyait ces stèles ? Qu'est-ce qu'on faisait d'abord des défunts ? Et est-ce que ces stèles étaient exposées à la vue de tous ?
Bien sûr.
Dans quelles conditions, dans quel cadre ?
Oui, tout le message qu'on vient de décrire, évidemment, il est codifié pour une raison bien précise, c'est qu'il doit être montré. Donc ces stèles se trouvaient comme des marqueurs de tombe, des sémas, sur la tombe d'une famille, dans un enclos familial où il pouvait y avoir d'ailleurs plusieurs stèles pour une même famille, différentes générations accumulant les stèles, bien sûr, ou différentes branches de la famille accumulant les stèles. Ces enclos familiaux se trouvaient dans les nécropoles d'Athènes, la plus connue étant le cimetière du céramique, où on voit très bien justement les stèles du 5e siècle et du 4e siècle regroupées en enclos familiaux. Pour les familles les plus riches, il pouvait y avoir des stèles comme celle-ci, ou des stèles encore plus grandes que celle-ci, mesurant jusqu'à 2 mètres de hauteur. Il pouvait aussi y avoir des statues funéraires, dans les cas les plus exceptionnels.
Voilà pour ce premier élément de votre promenade dans le Louvre à la recherche de statues qui puissent illustrer donc le programme de CAPES et d'agrégation d'histoire, famille et société dans le monde grec et en Italie. Victor Massé-Dépinay, vous étiez avec Ludovic Laugier, le responsable des statues grecques, qui commentait la stèle funéraire de Bacco.
Oui, une stèle funéraire exclusivement féminine. Et on peut commencer avec vous, Aurélie Damet, en parlant des femmes à Athènes. Ludovic Laugier a prononcé un mot qui est celui de gynécée. Et en lisant le manuel que vous avez publié avec Philippe Moreau chez Armand Collin, j'ai appris, moi, que le gynécée n'existe pas, en fait. C'est à peu près ce que vous dites.
Voilà. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a enfermé les femmes grecques dans un gynécée qui, finalement, est archéologiquement... introuvable. C'est-à-dire qu'on a parfois dans les textes la mention de pièces qui sont dénommées avec un mot féminin. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un contrôle, on va dire, à l'intérieur des maisons, des allées et venues, notamment des hommes de l'extérieur, pour être sûr qu'ils n'approchaient pas trop les femmes de la maison. Mais il n'y avait pas une stricte séparation, en fait, des espaces figés. Et en fait, dans une maison grecque, un même espace pouvait être utilisé pour plusieurs fonctions, et parfois donc accueillir des hommes, accueillir des femmes. Et donc ça, c'est une première chose, hein, c'est le fait qu'une pièce pouvait servir à plusieurs choses, et que par ailleurs, on n'a pas une stricte séparation des hommes et des femmes, et si c'est mentionné, c'est souvent plutôt pour, on va dire, encadrer la sécurité des esclaves. C'est plutôt ça, en fait, hein, qu'on voit dans les textes. Donc attention, effectivement, avec ce gynécée.
Alors qu'est-ce que l'oïkos, donc, qui est à la base de cette conception de la famille dans la Grèce dite antique, c'est quoi? C'est un rassemblement de plusieurs générations de personnes sous un même toit?
Alors c'est l'une des définitions qu'on peut donner. En fait, l'oïkos, selon les sources, selon les auteurs, c'est la famille nucléaire. Mmh. Parfois c'est la famille nucléaire plus les esclaves. Donc ça, c'est ce qu'on voit par exemple chez Aristote, qui va d'ailleurs parler davantage d'oïkia plus que d'oïkos. Et parfois, effectivement, c'est l'idée de 2-3 générations, c'est l'idée du groupe de la lignée. Voilà. C'est aussi une unité économique de production et de vie quotidienne.
Et quelle différence entre l'oïkos et l'ankisteia, par exemple, que vous déclinez un peu plus tard dans votre ouvrage, donc Famille et société dans le monde grec et en Italie?
Alors l'ankisteia, c'est très simple. D'abord, c'est une réalité juridique athénienne. Exclusivement, et c'est tout simplement la parenté juridique des droits et des devoirs. C'est une parenté, en fait, qui s'étend, alors, ce qu'on appelle jusqu'au cinquième degré, c'est-à-dire jusqu'aux enfants de cousins de la personne, d'égo. Et c'est dans cette parenté juridique qu'on doit enterrer les morts, qu'on doit les soutenir dans leurs vieux jours, qu'on doit, en fait, c'est une parenté de la solidarité, et aussi, c'est dans cette parenté qu'on hérite. Donc, à certains devoirs, il y a aussi le droit qui est celui de l'héritage.
Et donc, en particulier, dans cet héritage, la place des filles ou des femmes, donc, plutôt des filles qui n'ont pas été mariées et qui se retrouveraient seules, par exemple, héritières potentielles. Qui, à Athènes en tous les cas, ça n'est pas exactement le même cas à Sparte, expliquez-vous, Aurélie Damet, qui à Athènes en tout cas n'ont pas de capacité à hériter elles-mêmes, elles ne sont qu'une sorte de vecteur pour permettre à leurs enfants mâles d'hériter
C'est ce qu'on appelle à Athènes l'épiclère, qui est donc la jeune fille effectivement qui reçoit donc le patrimoine paternel et qui doit donc être épousée à l'intérieur de l'ankisteia, théoriquement par l'oncle paternel et souvent en fait par le cousin, donc le fils de l'oncle paternel. Voilà, afin que le patrimoine ne sorte pas de l'oïkos.
Ce qui n'est pas le même cas à Sparte, dites-vous. Et pour autant, ce qu'on a cru pendant longtemps d'une sorte de caractère plus évolué au regard de notre société, de la société spartiate, quant à la liberté des femmes, n'est pas aussi prouvé qu'on peut le dire.
Disons qu'on a pu le dire. Il est vrai qu'à Athènes, on peut dire que les femmes, en dehors de leur dot, n'ont pas de part d'héritage. Alors qu'à Sparte, les filles et les garçons héritent. Donc il y a bien un système de dévolution des héritages qui est différent d'une cité à une autre. Et de fait, on peut dire tout de même qu'à Sparte, les femmes ont un avantage qui est celui de posséder.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, tout au long de... Dans tout ce programme, la place de la femme est très importante dans toutes les dimensions de la famille, que ce soit la dimension économique, on vient de l'aborder un petit peu, mais également dans la dimension biologique. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que qu'est-ce qu'une famille ? C'est d'abord une question peut-être biologique, d'où vient-on ? Et vous expliquez, Aurélie Damet, que on s'est demandé d'où on venait, de quelle substance, de quelle semence, et qu'il y a eu une théorie très développée, en particulier chez Aristote, je crois, qu'on vient d'une semence, qui est la semence du père, et que la mère est le lieu de la croissance du nouvel être, mais qu'on est l'enfant uniquement de son père, d'une certaine façon.
Voilà, alors ça c'est ce que mon collègue Jean-Baptiste Bonnard appelle le complexe de Zeus, dans une jolie formule. C'est cette idée qu'une partie des sources médicales, scientifiques, philosophiques, en fait survalorise le rôle du père. Et donc chez Aristote, on a effectivement cette idée que ce qui compte, c'est une semence unique, qui est le sperme, produite donc par le corps paternel, et qui va donc ensemencer le corps maternel qui reçoit et qui a ce qu'on appelle un rôle topique, c'est-à-dire qui est le lieu qui accueille et qui fait croître. Voilà.
Et le complexe de Zeus, parce que Zeus, lui, a réussi à engendrer Athéna, en particulier,
par la tête,
qui l'a sorti de sa tête, sans Athéna, qui est la déesse sans mère.
Alors, qui, à l'époque archaïque, a une mère, c'est Métis, mais c'est intéressant parce qu'à l'époque classique, Athéna devient effectivement la déesse sans mère. Et donc, elle est engendrée par Zeus, par le crâne, et Zeus a aussi engendré par la cuisse Dionysos. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste Bonnard appelle ses rêves de paternité solitaire, qui sont donc un relais parmi d'autres, culturel, de cette survalorisation du père.
Alors, on a évoqué le rôle de la mère et le rôle du père. Parlons de leur ensemble, pourrait-on dire, la question des époux. Nous allons partir non pas du côté d'Athènes ou de Sparte, mais du côté de l'Italie, puisque le programme de Capès et d'agrégation porte sur le monde grec et sur l'Italie avant le IIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette Italie, il y a avant Rome, bien évidemment, les Étrusques que vous avez visités avec le responsable des collections étrusques, Laurent Homesser, cette partie du Louvre, le sarcophage des époux.
Laurent Homesser, vous êtes en charge de la collection étrusque dans ce département et vous avez choisi comme première œuvre une œuvre très fameuse du musée du Louvre et du département des Antiquités qui est ce sarcophage des époux étrusques, un sarcophage qu'on date de moins 530, moins 510, un tout petit peu avant le début du 5e siècle.
C'est ça, c'est effectivement un des chefs-d'œuvre du département et un des chefs-d'œuvre de l'art étrusque tout court, j'allais dire, puisque nous avons la chance au Louvre d'avoir une collection très, très abondante, très riche de cette civilisation qui, rappelons-le, est la principale civilisation de l'Italie avant le règne de Rome. Donc ça a été une civilisation extrêmement importante dans l'histoire de la péninsule italienne, extrêmement importante dans l'histoire de la Méditerranée, qui a façonné bon nombre d'aspects de la culture, de la société, de l'Italie antique et notamment qui a eu une forte influence sur Rome.
Les bornes chronologiques en deux mots de cette civilisation étrusque ?
Alors la civilisation étrusque est assez simple à cadrer puisqu'elle s'étend sur tout le premier millénaire avant notre ère. Donc les Étrusques apparaissent au début du premier millénaire avant notre ère et ils vont disparaître, être totalement assimilés dans l'Empire romain à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire autour de l'an moins 1 ou plus 1, disons tout début de notre ère. On ne parle plus Étrusque et on considère que les Étrusques ont été définitivement romanisés. Mais tout au long de leur histoire et notamment à partir du 6e, 5e siècle, les Étrusques entretiennent d'étroites relations avec Rome et il y a des échanges culturels extrêmement féconds entre le peuple étrusque et les Romains. C'est quelque chose que l'on voit d'ailleurs dans cette œuvre, dans ce sarcophage des époux, qui nous montre un couple enlacé l'homme passant le bras sur l'épaule de la femme. Tous deux sont allongés sur un lit richement décoré. On voit le matelas, on voit le tissu qui à l'origine portait un décor polychrome très, très riche, très précieux, que de récentes analyses ont permis de mieux comprendre et permettront de restituer. Ils ont les coudes appuyés sur des coussins qui sont en réalité des outres, puisque c'est une allusion en fait au lit de banquet. L'homme et la femme en train de banqueter. Et en dépit de l'absence de la main gauche de l'homme, on comprend le geste que fait la femme. La femme est en train de verser d'un vase qui est désormais absent, mais qui était là, en train de verser du parfum sur la main tendue de l'homme au terme du banquet. Donc il s'agit à la fois d'une image qui saisit sur le vif le couple, cet amour conjugal que les défunts ont voulu emmener avec eux dans la tombe, et en même temps ce rite social du banquet si important dans la société étrusque que les Étrusques ont emprunté de longue date aux Orientaux et aux Grecs et qu'ils vont transmettre également à Rome. Cette thématique du banquet comme rite social mais également comme occupation familiale, comme image du statut de la famille et des riches aristocrates étrusques, trouve ici une de ses meilleures illustrations.
C'est un sarcophage. Est-ce que ça veut dire que à l'intérieur de ce qui est une grande boîte, il y avait les corps de ces deux époux?
C'est une excellente question à laquelle on aimerait bien répondre, mais on n'a pas tous les éléments, puisque c'est un sarcophage qui a été trouvé dans les années 1840 à Cerveteri, la grande métropole étrusque, grand allié de Rome d'ailleurs, qui se situe à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Rome. Et les conditions de la découverte ne nous permettent pas de savoir ce qu'il en était, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a trouvé exactement à l'intérieur. Si vous regardez attentivement l'œuvre, vous verrez qu'elle est composée de quatre parties, c'est-à-dire que la cuve, la partie inférieure, est scindée en deux, et il en va de même du couvercle, les deux bustes composant la partie droite, et les jambes très aplaties, très allongées des deux personnages, composant l'autre moitié. Donc en réalité, vous avez un important creux à l'intérieur, dont on peut se demander effectivement s'il suffisait à contenir les deux corps. On devait être un petit peu serré, si vous me passez l'expression, à l'intérieur. Donc on pense peut-être plutôt qu'il s'agit d'une urne cinéraire monumentalisée, plutôt destinée à contenir les cendres des défunts plutôt que proprement les corps. Ce qui permet d'aller dans ce sens-là, c'est également des œuvres analogues qui sont présentes, qui sont connues à Cerveteri, dont certaines sont présentes dans notre collection, non loin du sarcophage des époux. Vous avez une urne cinéraire qui est un petit modèle du sarcophage des époux. Donc on voit bien comment en réalité la plupart des monuments sont des monuments destinés à recueillir les cendres. Et ce qui est intéressant dans cette urne, c'est qu'elle conserve le geste, le même geste du sarcophage des époux. On voit très bien le petit vase, le geste de la main tendue de l'homme, du parfum versé. Donc on a ici affaire aussi, et c'est très important de le noter, à une image dans une certaine mesure stéréotypée, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on a ici des pratiques d'atelier. Les ateliers proposaient et déclinaient un même modèle à différents commanditaires, différents clients, qui, suivant leur richesse, suivant leurs possibilités économiques, pouvaient s'offrir ou un sarcophage monumental ou une urne plus réduite. Et on connaît d'ailleurs une réplique de ce sarcophage, un deuxième sarcophage des époux, au musée de la Villa Giulia à Rome.
Un mot encore sur ce couple et ces visages de cet homme et de cette femme qui ont une expression plutôt heureuse, un peu énigmatique, on pourrait presque dire, je ne sais pas si on doit y voir quelque chose d'érotique, mais une expression peut-être un peu mutine ou quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'on sait quelque chose des liens de couple, des liens des liens conjugaux qui existaient dans la civilisation étrusque aux alentours du 5e siècle?
Alors évidemment, le commentaire qu'on peut faire et la question que vous posez, on dit peut-être plus long sur la personne qui pose la question que sur l'objet lui-même, puisqu'on projette effectivement une vision sur des expressions qui sont d'abord des expressions conventionnelles de l'art archaïque, c'est-à-dire effectivement ce sourire typique de cet art de la fin du 6e, de la fin de l'époque archaïque, fin 6e, début 5e, ces yeux Donc ces yeux en amande, cette expression, voilà, qui semble effectivement heureuse dans un cadre funéraire. Donc il y a quelque chose effectivement là qui attire l'attention. Donc il y a une part de convention. En même temps, il est très clair que il y a des sentiments derrière. C'est-à-dire que ce geste sur lequel j'insistais, du bras posé sur l'épaule de la femme, le couple enlacé, effectivement, c'est quelque chose qui montre le lien très fort qui unissait l'homme et la femme, le couple qui se projetait évidemment dans sa vie individuelle, c'est-à-dire dans les sentiments qui unissaient les deux personnes, mais qui se projette également dans ce cadre très important dans la société du temps, qui est le couple en tant que noyau familial. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental en Étrurie, et c'est aussi en cela que le sarcophage est intéressant, c'est-à-dire que c'est une image qui va perdurer. Donc on trouve des images de couples banquetant dans des monuments funéraires encore au 4e, 3e siècle. Cette image se prolonge et c'est quelque chose de très important dans le monde étrusque. La place de la femme en particulier, c'est un peu une tarte à la crème de l'historiographie antique, mais la place de la femme dans la société étrusque est très importante. Et cette image de la femme et de l'homme banquetant, par exemple, on sait bien qu'elle serait impossible dans le monde grec, où le banquet est une affaire d'homme. On insiste vraiment sur les deux composantes de la famille. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de tombes étrusques, on a les deux lits de déposition dans chaque tombe. Donc vraiment cette insistance sur le pater familias, mais également la matrone, si vous voulez, étrusque. Ce qu'on retrouve également dans les inscriptions, notamment les inscriptions funéraires, où la femme également a son nom bien mis en évidence, sa filiation. Donc la femme est à l'honneur et est partie intégrante de cette société, de ce noyau familial qui définit le monde étrusque.
Voilà pour cette deuxième œuvre décrite lors de votre passage au Louvre, Victor Massé-Dépiné, par Laurent Homesser, le responsable des collections étrusques. Alors, on a démonté déjà le mythe du gynécée, on pourrait démonter, mais vous n'êtes pas spécialiste des étrusques, mais de la Grèce antique, Aurélie Damé, on pourrait démonter le mythe du matriarcat étrusque, ça c'est sûr.
Il paraît.
Voilà.
Oui.
Donc, le matriarcat n'existe pas, c'est ce que vous dites dans votre livre En commun avec Philippe Moreau. Si on prend cette question des époux dans le monde grec, que vous connaissez très bien, puisque c'est votre spécialité, le statut matrimonial, la façon dont l'épouse est associée ou pas au travail des époux, qu'en sait-on, comment peut-on, quand on travaille sur une agrégation d'histoire ou un CAPES d'histoire sur ce thème-là, approcher cette question ?
Alors, par rapport, là, vous évoquez la question du travail. Là, il faut penser en fonction des ressources économiques de la famille. Hein, c'est-à-dire que l'idéal, justement, de l'épouse qui reste chez elle, c'est plus un idéal aristocratique de famille aisée. Ce qu'on voit dans les sources, par exemple, dans l'Athènes classique, c'est que dans les familles modestes, les femmes, les épouses, les filles travaillent, sortent, justement, de l'oïkos, vont sur le marché, sur l'agora, pour vendre des petites choses. Donc, il y a un travail des épouses et des femmes de la maison en dehors de l'oïkos. Et elles participent à ce moment-là de l'économie de la maison. Donc là encore, il ne faut pas s'imaginer que les femmes restaient cloîtrées chez elles. Beaucoup d'entre elles travaillaient, même si c'était mal vu. Parce qu'il faut aussi après nuancer la question de la pratique sociale et des normes aussi.
Et comment cela se passait-il, puisque vous expliquez dans votre livre qu'il y a fréquemment du veuvage pour les veuves, justement, une fois que leur époux est décédé et a disparu?
Alors, certaines épouses se remariaient, donc le remariage était assez fréquent. Certaines retournaient dans leur famille natale, la famille paternelle, et on a quelques cas rares d'épouses veuves, âgées et assez riches pour finalement donner l'impression qu'elles arrivaient à gérer seules leur oïkos. Ouais. Voilà. Mais une fois encore, ce sont des exceptions, comme la mère, par exemple, de Démosthène.
Mmh. Victor Massé-Lépine.
Oui, on vient d'entendre que c'était dans la société étrusque qu'était apparue cette idée du nom de famille qui se transmet, du patronyme qui se transmet. Comment est-ce que dans la société grecque, à quel moment est-ce que ça arrive dans la société grecque et quelle importance ça a? Est-ce que avoir un nom de famille, ça engage un certain nombre de devoirs vis-à-vis des ancêtres, vis-à-vis...
Alors là, il faut aussi distinguer en fonction des cités. Les règles de nomination, par exemple, pour le monde grec, étaient celles d'emprunter le plus souvent les noms dans les branches à la fois paternelles et maternelles. Donc on a un stock en fait hein, de noms qui sont surtout hein, ceux des grands-parents. C'est ce qu'on appelle la paponymie. Voilà, et
est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire exactement, que ça fait quoi cette paponymie? Ça veut dire qu'on peut emprunter à ses propres grands-parents leur nom.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on peut retrouver donc dans une famille des individus qui vont porter le même prénom que le grand-père paternel. Alors le cadet, ce sera plutôt le grand-père donc maternel. On a comme ça une alternance en fait entre les deux branches. Puisque ça, c'est un élément aussi important, c'est que la parenté, notamment athénienne, est une parenté, ce qu'en anthropologie de la parenté, on appelle cognatique ou bilatérale, c'est-à-dire que la famille de la mère et la famille du père sont toutes les deux importantes. Et là, on le voit bien avec les noms, par exemple, qu'on emprunte à la fois à la famille de la mère et à la famille du père.
Ça veut dire que si le statut de la mère est un statut, disons, sinon accessoire, en tout cas marginalisé par rapport au statut du père, enfin, a priori, comme cela, ça n'est pas le cas du statut de sa propre famille, d'une certaine façon.
Alors, on peut dire ça comme ça, ou on peut résumer en disant que la parenté athénienne est cognatique à inflexion patrilinéaire.
Alors, traduisez.
Ça veut juste dire que vous empruntez à la fois dans la famille paternelle et maternelle des éléments économiques, sociaux, de transmission, mais qu'il y aura toujours une prédominance des maillons paternels et masculins. C'est juste ça que ça veut dire, en fait.
Victor Massé-Lépine.
Et puis alors, à l'origine de cette cité athénienne, cette société athénienne, il y a quand même quelque chose que vous évoquez dans votre livre, qui est l'autochtonie, la question de l'autochtonie athénienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Aurélie Damet, en quelques mots, qui est Erichthonios et ce que c'est que cette autochtonie athénienne?
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est le lien effectivement entre mythe, parenté et cité. Le mythe de l'autochtonie, c'est un mythe qui va se populariser au milieu du 5e siècle à Athènes et qui est une espèce de roman national pour les Athéniens.
Ah, ça nous dit quelque chose, ça, roman national.
qui considère en fait qu'ils descendent tous, les Athéniens, d'un premier Athénien sorti du sol qui s'appelait Erichthonios. Et qui est né de la façon suivante, à savoir qu'Athéna était venue chercher chez Héphaïstos ses armes, et qu'Héphaïstos a tenté de la violer, et qu'Athéna a donc reçu sur sa cuisse le sperme d'Héphaïstos, qu'elle a donc jeté à terre, et Gaïa, la terre, a donc engendré le premier Athénien, Erichthonios, qui a donc une parenté assez, évidemment, prestigieuse, Athéna, Héphaïstos, voilà.
Et Gaïa.
Et donc, les Athéniens vont donc développer ce mythe hein, des origines, à partir donc de la moitié du 5e siècle, qui est donc un mythe qui les présente comme supérieurs par rapport aux autres Grecs. Et ça aussi, c'est intéressant du point de vue de l'origine, puisque eux, ils considèrent qu'ils ont une ascendance pure, puisqu'ils descendent d'un Athénien sorti du sol de la patrie, contrairement à d'autres peuples, comme les Spartiates, par exemple, qui sont un peuple plus composite et qui n'ont pas cette...
Et cela a quelles conséquences sur la gestion, pourrait-on dire, quotidienne de la cité, plutôt de la famille en l'occurrence, que d'avoir cet héritage prestigieux pour les Athéniens par rapport aux autres Grecs?
Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct avec la gestion quotidienne de la famille, c'est plutôt dans l'ordre de l'idéologie.
Voilà.
Les Athéniens se considèrent comme un groupe, un génos, on appelle ça, un groupe qui a une ascendance pure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'autochtonie se développe au moment où Périclès met en place sa loi sur la citoyenneté et qu'il faut un père et une mère désormais athéniens pour être citoyen. Donc, des Athéniens pure souche.
Alors, on va continuer à parler d'Athènes et de la Grèce avec Violaine Jamet, responsable des figurines en terre cuite grecque et romaine au musée du Louvre, qui va nous présenter deux œuvres qu'elle conserve donc dans ce même musée et qui nous permettront de réfléchir à cette question de la famille et de la société dans le monde grec et en Italie entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ.
Violaine Jamet, dans ce département des Antiquités, vous êtes responsable de la collection des figurines en terre cuite, collection dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi comme figurine pour évoquer cette question de la famille dans la société grecque?
Alors nous nous trouvons en effet dans les salles consacrées aux terres cuites grecques et romaines. Ce sont trois salles qui se trouvent au premier étage de la cour, entre la cour carrée et la Seine, et qui montrent en effet une production majeure de l'art grec, bien que souvent très mise de côté, que sont les figurines en terre cuite, puisqu'on a trouvé des milliers et des milliers de ces figurines, aussi bien dans les tombes que dans les temples, voire dans des contextes domestiques. Très importante aussi parce qu'elle évoque le rôle de la femme qui est souvent minoré dans la société grecque et notamment la société athénienne pour laquelle on a le plus de renseignements. C'est une des collections ou une production qui montre essentiellement des femmes. Et puis je vais vous parler d'un homme, un vieil homme, 15-16 cm de hauteur, auquel il manque les pieds mais qui et le bras droit, mais qui est sinon intact. On voit que c'est un vieil homme parce qu'il est tout voûté et qu'il y a une volonté de marquer l'âge, aussi bien dans le visage, où les rides sont toutes présentes, que dans la position même de cet homme qui est voûté par l'âge, et il est enroulé dans son imation, dans son manteau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il porte dans sa main gauche deux petits sacs, qui étaient des sacs à osselets, et une couronne. Et ces sacs à osselets montrent donc qu'il s'agit d'un pédagogue, au sens premier du terme, donc celui qui conduit l'enfant et qui était effectivement, qui jouait un rôle très important dans la société grecque, dans l'éducation des enfants, qui revenait essentiellement aux femmes, notamment pour les filles qui restaient au gynécée, mais aux jeunes garçons jusqu'à 10-12 ans, et puis qui ensuite étaient confiés donc effectivement à des pédagogues, puisque l'éducation reposait sur deux piliers majeurs, qui étaient d'une part la lecture, et alors on était complètement imbibé des textes d'Homère, et d'autre part la musique, pour les jeunes garçons. Et les jeunes filles, quant à elles avaient essentiellement une éducation, un apprentissage du textile et du tissage. Ces personnages dans la maisonnée étaient très importants, mais ils étaient essentiellement des esclaves, puisqu'on sait que ce qu'on appelle la démocratie grecque concernait en réalité que presque un quart de l'ensemble de la population et que le reste était formé des femmes qui n'étaient pas citoyennes et des esclaves qui étaient souvent des tribus de guerre, des étrangers et enfin des étrangers donc à la vie des hommes libres mais étrangers aux cités-états que formait donc le système politique grec.
Et alors, l'autre figure que vous avez voulu nous montrer, Violaine Jamais, on va voir une femme.
Alors, on va aller voir une femme avec un homme encore. Alors, nous nous trouvons dans la salle suivante, qui est celle-ci consacrée plutôt aux productions qui ont été trouvées dans la cité éolienne de Myrina, donc l'actuelle côte turque, et qui appartenait donc à l'Asie mineure, qui a livré, à partir de la fin du XIXe siècle, avec les fouilles de l'école française d'Athènes, un nombre d'objets archéologiques tout à fait étonnants provenant de la nécropole qui seule, elle, a été fouillée. Alors, ces objets, dont une infime partie est présentée ici, hein, puisque en réalité la collection, enfin on a 10% de la collection qui sont présentées dans les salles, cette nécropole a livré donc un nombre d'objets très impressionnants, dont peut-être le plus impressionnant est ce couple installé sur une clinée, un lit. Donc d'un côté, vous avez un homme nu, qui est nu à l'exception en fait de sandales et d'une chlamyde, donc d'une cape qu'il porte sur les épaules. Il est également couronné d'une très belle couronne qui indique donc là encore qu'on est dans un contexte pour le moins festif, peut-être un banquet, et des bandelettes autour de la couronne. Et il porte son bras droit vers le visage de la jeune femme qui est assise à côté de lui, tandis que le bras gauche enlace ses épaules. Elle, au contraire, est représentée dans une attitude totalement fermée. Elle porte la main droite à son visage, elle replie les jambes et elle est, elle, entièrement vêtue à la fois d'un chiton, donc cette tunique, et elle porte de surcroît une coiffe qui s'apparente vraisemblablement à ce que l'on appelait un tegidion, c'est-à-dire que c'était un foulard qui, lorsqu'il était baissé, ne laissait découvrir que les yeux. Et il est probable que le geste d'ailleurs du jeune homme est l'achèvement du dévoilement de cette jeune femme. Et c'est la raison pour laquelle le fait également qu'il soit installé sur un lit très richement décoré, c'est la raison pour laquelle on a supposé qu'il s'agissait d'une scène nuptiale. Alors, effectivement, le mariage dans l'Antiquité était quelque chose de très codifié, dans lequel d'ailleurs la femme n'avait pas son mot à dire, et il se déroulait en deux étapes. Il y avait le véritable mariage, qu'on en appelait l'enguié, qui est un acte juridique. Le père donne sa fille à un autre homme, et puis il y avait une deuxième étape qui était facultative, que l'on appelait le gamos, qui est à la fois les festivités, la manifestation des festivités, mais qui est aussi le mot qui désigne l'acte sexuel lui-même. Alors, les festivités, le gamos, consistaient effectivement en, comme aujourd'hui d'ailleurs, des cérémonies très joyeuses autour d'un banquet avec des danses. Il était patronné en quelque sorte par une matrone, si je puis dire, qui présidait donc aux différentes cérémonies autour de la femme. Donc la jeune femme, en fait, la jeune fille était d'abord Parthénos, donc jeune vierge. Elle devenait nymphée au moment de son mariage, la nymphe, pour ensuite, après la réalisation du mariage lui-même, guinée, donc femme, prête à donner des enfants. Donc, lors du mariage, la matrone surveillait le bain nuptial, l'appareil de tous ses atours. On peut renvoyer au mythe de Pandora, qui était vraiment constitutif de cette vraie manifestation de ce mariage. Ses atours qui consistaient en bijoux, en une ceinture, très importante la ceinture. On peut voir d'ailleurs sur d'autres figurines du 4e siècle de Béotie, donc ça change un peu de l'Attique et de l'Asie mineure, des représentations de femmes avec des coiffes très importantes, qui étaient des perruques sans doute portées au moment des mariages, et qui portent un coffre à bijoux et des ceintures, puisque l'acte sexuel lui-même autour du mariage était parfois appelé aussi le dénouement de la ceinture. On retirait la ceinture, l'homme retirait la ceinture que portait la jeune femme autour de son vêtement. Et la matrone, à un moment donné, donc dévoilait donc le visage de la jeune femme à son fiancé. Et c'est à partir de ce moment-là que le fiancé pouvait rapter, si je puis dire, sa femme. Alors, ça se passait de nuit, il y avait des torches, il y avait des cortèges. On l'emmenait soit à cheval, soit dans des chariots. On a des représentations sur les vases. Et l'emmenait donc chez lui, chez son père, où elle était accueillie par sa belle-mère. Et il pouvait y avoir une autre cérémonie encore le lendemain, qu'on en appelait les épolias, qui là, on apportait donc à la jeune mariée des cadeaux. Ce qui est assez étonnant, c'est que, en principe, donc ce n'est pas l'homme qui retire le voile à la jeune femme. Et puis on voit ici qu'il y a effectivement, comme je disais, cette attitude très contradictoire entre l'ouverture de l'homme, la fermeture de la femme et son recueillement. Parce que effectivement, le geste dans lequel elle est représentée, avec la main sous le menton, est en réalité un geste de déploration et de deuil qu'on retrouve aussi sur les stèles funéraires et sur certaines figurines de terre cuite, notamment autour des Tanagra. Et c'est cette représentation qui a fait dire, puisque ce groupe se trouvait dans une nécropole, dans un tombeau, qu'il s'agissait peut-être d'une représentation divine plus que qu'humaine, voire peut-être symbolique, et qu'il s'agissait peut-être plutôt de la représentation d'un culte à mystère au moment où le dieu vient dévoiler le myste, donc l'initié au mystère des cultes.
Vous avez donc fait deux choix dans ces centaines de figurines intercuites, Violaine Jamais. J'imagine que vous invitez tous les agrégatifs à venir au Louvre regarder ce département, toutes les œuvres exposées dans ce département des Antiquités. Alors, pour la famille, il y a quand même beaucoup de choses.
Alors, pour la famille, il y a effectivement beaucoup de choses. Il y a essentiellement, je crois qu'on est plutôt dans les représentations figurées dans les arts qui ont été considérés comme mineurs, mais enfin, alors le terme n'est pas juste, mais dès l'Antiquité moins commentés par la grande littérature, et que sont donc les arts de l'argile autour de des vases et des figurines de terre cuite, qui sont effectivement, parce qu'ils sont loin des carcans du grand art, beaucoup plus proches de la vie quotidienne, et qui sont des témoignages donc très précieux sur cette vie quotidienne qui, contrairement à l'Égypte, qui a conservé toutes sortes de témoignages de matériaux périssables, en Grèce, nous n'avons pas. Et nous les les avons grâce à ces témoignages peints et figurés sur ces terres cuites, entre autres, qui ont été souvent considérées comme l'ex-voto des pauvres, mais qui sont en réalité au plus proche de la vie quotidienne et des croyances des Grecs anciens.
Violaine Jamais, responsable des figurines en terre cuite grecque et romaine au musée du Louvre. Et de là, on voit toujours cette ambiguïté de la lecture possible de ces œuvres d'art pour pouvoir nous aider à faire de l'histoire Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Violaine Jamais qui évoque les vases grecs très connus. J'ai vu au Louvre 3 des 8 conservateurs du département. Si j'en avais vu d'autres, peut-être qu'ils auraient commenté l'un ou l'autre de ces vases qui présentent des scènes très connues de la mythologie, en particulier les scènes avec Oreste, Clytemnestre et tous les Atrides. Je voulais vous interroger un peu là-dessus, Aurélie Damet, puisque cette famille des Atrides rentre dans le programme de l'agrégation famille et société du 5e au 2e siècle. Il faut quand même connaître un peu la mythologie et les liens familiaux qui unissent les uns et les autres.
Ah, oui, tout à fait. Au moins pour avoir une idée des contre-modèles, on va dire, familiaux que sont alors les Atrides, c'est-à-dire la famille d'Oreste, hein, qui va donc tuer sa mère, Clytemnestre, elle-même qui avait tué son époux, Agamemnon, lui-même ayant tué un des fils de Clytemnestre. On pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. C'est une des familles maudites de la mythologie, celle donc qui remonte à Atrée et même et avant. Et il faut aussi connaître les Labdacides, hein, c'est-à-dire la famille d'Édipe, où se concentre l'inceste et le parricide.
Quand vous dites contre-modèle, c'était donc dans cette mythologie la capacité de voir ce qu'il ne fallait pas faire dans l'ordre.
Les transgressions familiales majeures, le parricide, l'inceste, le fait de manger ses enfants, la technophagie, on appelle ça, qu'on trouve comme épisode de ces grandes familles maudites.
Alors, on parlait de mariage. Qu'en est-il de l'âge au mariage dans cette Grèce antique, donc entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ?
Alors, deux choses importantes. D'abord, les jeunes filles se marient très jeunes. Quand on dit très jeune, ça peut être 12 ans à Trézène, 12 ans à Gortyne, 14 ans à Athènes. Donc, vraiment très jeunes. Alors, ce ne sont pas des moyennes, mais des chiffres bas, en fait, hein, qu'on a dans les sources juridiques. Donc, les jeunes filles se marient très jeunes. Et deuxième élément important, c'est l'écart d'âge avec l'époux, puisque l'homme, lui, se marierait plutôt vers 30, 35 ans. Donc, on a parfois une génération de différence entre l'homme et la femme, avec une exception, qui est Sparte. Sparte étant un modèle familial à part, hein, on pourrait là aussi y passer des heures, où là, vraisemblablement, les jeunes femmes se mariaient davantage vers 18, 20 ans. Et on sait qu'il y avait des Spartiates qui avaient une famille avant 30 ans, même s'ils n'avaient pas trop le droit d'aller la voir. Des différences entre cités, mais globalement, un âge au mariage très jeune, hein, pour les filles qui finalement passaient du statut de l'enfance à celui de l'épouse et de la mère en très peu de temps.
Le programme donc de concours CAPES Agrégation d'Histoire court du 5e siècle au 2e siècle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, par exemple pour cette question de l'âge au mariage, ou un modèle qui finit par l'emporter sur les autres au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ou est-ce que chaque cité conserve son propre modèle justement dans le domaine des relations familiales, des héritages ou encore du mariage?
On peut d'une cité à une autre parfois voir quelques lois qui vont infléchir l'organisation de la famille, mais globalement les modèles restent à peu près les mêmes pendant la période qui est couverte par le programme, avec peut-être à Sparte une évolution qui est celle du manque de citoyens, de l'oliganthropie et de la difficulté des réponses à apporter à ce manque de citoyens. Mais globalement c'est plutôt un programme qui présente des effets de structure plus que des effets chronologiques.
Mais alors, les bornes chronologiques, 5e, 2e oui. siècle, pourquoi ?
Ah, pourquoi ? Alors, 5e, si on part du 5e siècle, si c'est un peu athénocentré, c'est Clisthène, c'est la réorganisation de l'Attique, donc ça peut être une solution de date, ça peut être aussi Gortyne, hein, c'est le moment où apparaît, donc où on date de vers 480 en fait, hein, ce qu'on appelle le code de Gortyne, qui est une des sources majeures, hein, pour le programme, un ensemble une législation sur la famille. 2e siècle avant, c'est plus problématique, c'est le dossier Driton dans l'Égypte hellénistique, hein, au milieu du 2e siècle, qui est donc une famille dont on a des archives, hein, dans cette Égypte de la fin du programme. Voilà, si on veut analyser ces bornes. Mais bon, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire entre le début et la fin du programme.
Oui, parce que ce monde grec, effectivement, il ne se cantonne pas à la Grèce telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais à l'Asie mineure, voire à la Grèce qui est installée dans
ce qu'on appelle le monde, l'Égypte. Voilà, le monde aussi colonial, diasporique, hein, c'est-à-dire la Grande Grèce, hein, l'Italie du Sud, la Sicile, et puis bien sûr l'Égypte hellénistique. Qui est bien sûr aussi au programme, bien sûr.
Alors on reviendra sur ces questions de programme de KPS et d'agrégation, en particulier jeudi avec vous, Victor Massé de l'Épinay.
Oui, parce que jeudi on parlera de la sexualité, qui est un prolongement de notre discussion d'aujourd'hui. On l'a un petit peu évoqué avec le mariage, la sexualité évoquée comme abordé comme fête des sens, puisque nous sommes une semaine sur les sens de l'Antiquité.
Et demain, nous parlerons de musique dans l'Antiquité, et mercredi, de goût et de banquet, en particulier de banquet sous l'Empire romain. Merci à vous, Aurélie Damet, d'être venue nous parler à l'occasion de la sortie de votre manuel avec Philippe Moreau, chez Armand Collin, Famille et Société dans le monde grec et en Italie. Merci beaucoup.
Merci.
Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcé. Outou Diego Aclopez était avec nous aujourd'hui à la technique et a assuré la technique, tandis que la réalisation était assurée par Renaud Dalmar. Et au programme de notre semaine, sachez qu'il y a aussi un petit spectacle des lectures de quatre comédiens, deux comédiens, deux comédiennes, qui donc le 23, c'est-à-dire jeudi, seront à la Bibliothèque Nationale de France pour la Fabrique de l'Histoire, en partenariat avec Retro News, le site de la BNF chargé des archives de presse. Donc nous lirons quelques-uns des grands articles de presse de ces deux derniers siècles à 18h23 à la BNF.